don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达姆家正忙
着。Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Opération spéciale aujourd'hui sur France Culture, au-delà des images chocs, des débats politiques du moment, on explore toutes les dimensions des enjeux migratoires dans une journée conçue comme un vaste récit radiophonique accompagné en direct par Atik Raimi qui partagera avec les auditeurs son dictionnaire intime de l'exil depuis 6h du matin jusqu'à 22h. Eh bien, nous vous proposons de suivre le parcours géographique des réfugiés du point de départ de l'exil au cœur de l'Europe. Les matins étaient avec Guillaume Erner du côté d'Istanbul, le lieu peut-être symbole de cette crise migratoire, à l'endroit qui sépare et qui relie deux continents. On retrouvera ce soir le grain à moudre d'Hervé Gardet en direct de Berlin en Allemagne, un pays qui cherche évidemment, que cherche à rejoindre nombre de réfugiés syriens. On va s'intéresser ce matin dans Culture Monde à la question des passeurs, des réseaux qui organisent la circulation des migrants. Passeurs, réseau, mafia, quelle réponse pour l'Europe et pour le monde? Les négociations sur une éventuelle résolution des Nations Unies autorisant les navires européens d'arraisonner des bateaux chargés de migrants dans les eaux internationales au large de la Libye s'enlisent. Comment comprendre que ce texte ait tant de mal à être adopté alors que ses promoteurs espéraient qu'il le soit avant l'Assemblée Générale de l'ONU, d'autant que la Russie, dans un premier temps réticente, s'est montrée constructive et désormais favorable au projet, selon les dires d'un diplomate du Conseil. Et de façon générale, au fond, quelle responsabilité pour les passeurs et les réseaux criminels qui organisent la circulation des réfugiés? D'ailleurs, quelle réalité retrouve-t-on derrière ce terme de passeurs? Sont-ils les seuls responsables des naufrages, noyades et autres drames humains qui font le quotidien des migrants? Qu'en est-il des responsables politiques, des États et de l'Union européenne? Leur politique migratoire ne conduit-elle pas d'une certaine manière à cette situation? Pour évoquer toutes ces questions, on a invité d'abord Emmanuel Blanchard. Bonjour Emmanuel Blanchard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, historien, président du réseau Migreurope. Également avec nous, Laurent Amida. Bonjour.
Bonjour.
Grand reporter, vous aviez notamment effectué toute une enquête sur la Libye. Libye, un bateau pour l'Europe qui avait été diffusé sur Canal+, il y a quelques temps, vous avez d'ailleurs reçu à ce même micro. Donc cette question des migrants et de parcours migratoires du côté de la Libye, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Avant de vous entendre les uns et les autres, place à notre retour d'eux en association avec les prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient des Balkans, c'est Hélène Despite-Popovic. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, reporter à Libération. On vous reçoit pour une série de reportages baptisés Balkans Express. Évidemment, cette zone des Balkans, elle est devenue aujourd'hui, on le sait, la zone principale de transit pour gagner l'Europe occidentale. C'est une région qui, dorénavant, se traverse extrêmement vite. C'est vrai que pendant longtemps, c'était une traversée longue, éprouvante, jonchée de violences en tout genre, des vols, des agressions, des kidnappings. Aujourd'hui, les choses sont extrêmement différentes. Tout est fait, au fond, pour que la traversée soit la plus rapide possible, d'où le titre de votre série, Balkans oui. Express.
Oui, et que la traversée soit le plus rapide possible et que les gens ne restent pas, parce que pas plus les Macédoniens que les Serbes et que les Grecs avant eux n'ont les moyens de recevoir de telles quantités de gens. Donc moi je me suis rendue d'abord en Macédoine. En fait, j'ai choisi la Macédoine parce qu'il venait d'y avoir une série d'incidents entre des gardes frontières et des migrants qui essayaient de franchir les portes. Et en fait, les gardes frontières se sont trouvés complètement débordés. Et donc, ils ont fini par organiser tout ça. Et c'est finalement, ce déplacement de population totalement organisé. C'est-à-dire que les douaniers et les policiers grecs accompagnent les groupes de migrants à la frontière du côté grec par groupe de 50. Pour que ce soit gérable. Et de l'autre côté, ils signalent à leurs confrères macédoniens, alors que bon, les Grecs et les Macédoniens, ça ne dort pas beaucoup à cause de la querelle pour le nom et que la querelle pour le nom de la Macédoine. Mmh. Et donc il signale l'arrivée aux douaniers et aux policiers macédoniens qui vont les chercher.
On les amène dans une zone de transit.
D'abord, on attend là, et ensuite, on les fait entrer, donc à Gevgelia, dans une autre aire de transit où il y a des tentes où se trouvent des policiers qui demandent aux gens leurs coordonnées,
qui les enregistrent et qui leur donnent le fameux laissez-passer de 72 heures. Parce que c'est ça, finalement, qui a changé les choses.
Voilà, c'est ça qui a changé les choses, et ça a été décidé en juin dernier, ouais. Déjà. Et ça a été décidé en juin dernier parce qu'il y avait eu toute une série de scandales, et notamment des kidnappings contre rançon. Et puis qu'on avait vu qu'un certain nombre de policiers n'hésitaient pas, eux aussi, à demander de l'argent aux migrants. Et sous la pression des ONG, là c'était important parce que la société civile est assez développée en Macédoine, sous la pression des ONG, le Parlement finit par voter une loi qui fait que donc les migrants peuvent prendre le bus, peuvent prendre le train, peuvent prendre les moyens de transport, peuvent louer une chambre d'hôtel, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Et avant, ils faisaient tout ce parcours à pied, le long des voies ferrées. Et il y avait aussi des gens qui se faisaient écraser, enfin, c'était assez terrible. Et donc, cette loi a changé les choses, mais justement, ça a créé un appel d'air. Et ensuite, les migrants commençaient à arriver dans le village de Gevgelia. Ça faisait énormément de monde pour un tout petit village. Et finalement, donc, le gouvernement, avec l'aide du HCR, a créé une zone de transit qui est à l'extérieur du village. Et même la station, la gare, qui est à l'intérieur du village, continue à assurer son rôle pour les passagers de Gevgelia, etc. Mais les migrants, eux, ils sont un point de départ. La station, elle est dans cette zone de transit.
Ouais, donc, d'une certaine manière, on a, au fond, légalisé ces routes migratoires, ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a des milliers de réfugiés qui passent chaque jour, notamment dans cette ville.
Voilà. Mais pas dans la ville, justement. On ne les voit plus à côté de la ville. On ne les voit plus. Donc, la population locale n'a plus de réflexes, grégaires ou autres, ou des problèmes de bouteilles vides jamais nettoyées, etc., ou jamais ramassées. Tout est fait dans cette zone de transit. Et le HCR a donné aussi les moyens de créer une antenne médicale parce que il assiste le gouvernement macédonien dans ce sens qu'il veut absolument que ce processus de migration se fasse dans la dignité humaine, et que chacun soit respecté.
C'est là que vous rencontrez à Gevgelia ce jeune homme, 18 ans, Khaled, qui est un Syrien qui cherche à aller en Allemagne. Racontez-nous un petit peu son périple. Khaled. Dans la première étape, vous ne vous souvenez plus ?
Non.
Ah, bon. Bon, alors, on va suivre le parcours. La deuxième étape.
Je reviens d'Odessa un peu.
Deuxième étape, ils sont emmenés donc par bus ou par train, là, du coup, dans le nord du pays. On traverse le pays, on est quasiment à la frontière avec la Serbie. Et puis là, les choses sont peut-être un peu moins encadrées, semble-t-il, par l'État. Heureusement, il y a des bénévoles sur place qui sont là pour un peu aider les réfugiés, comme cette femme que vous avez rencontrée, Valentina. Vous nous racontez un peu, elle, si vous vous souvenez, son action, Hélène
Valentina, c'est une de ces bénévoles qui a vu pendant des mois, avant que cette loi de juin soit adoptée, qui a vu pendant des mois des réfugiés se promener sur la route. Et donc, elle, spontanément, les gens venaient vers la mosquée. C'est là qu'ils demandaient de l'aide, à l'époque où ils faisaient tout le périple à pied. Et spontanément, donc, elle est allée apporter de l'aide à la mosquée. Et elle a organisé tout son quartier pour que son quartier fasse de même.
Donc là, vraiment hors du cadre des ONG, quoi.
Ah oui, parce qu'ils ont créé leur propre groupe local. Elle n'avait jamais travaillé pour une ONG de sa vie.
Alors, il y en a évidemment qui agissent aussi dans le cadre d'ONG. C'est par exemple le cas de cette jeune interprète salariée, elle, pour le coup, d'une ONG qui est membre également du mouvement de solidarité de gauche et qui vous explique que cette crise, elle a aussi fait naître une extraordinaire solidarité. C'est ce qu'elle vous dit entre Albanais et Macédoniens de Macédoine.
Oui, parce que avant, en Macédoine, effectivement, il y a un groupe albanais qui est assez important. C'est, 30-40% de la population. 30% peut-être. Je crois que j'exagère là. 30% de la population et qui vit pas toujours en bonne intelligence avec les Macédoniens, même si au niveau politique, il existe. Le pays est dirigé par une alliance de deux partis, un parti albanais et un parti macédonien. Mais d'habitude, chacun compte les siens et n'aide que les siens. Et là, c'est vraiment la première fois qu'on voit un mouvement où il y a une aide qui est organisée par des groupements qui ne sont pas interethniques.
Donc sur cette troisième étape du côté de la Serbie, on est à l'entrée du village de Miratovac. C'est comme ça qu'on prononce. Il y a une aire également sur laquelle il y a, vous décrivez dans votre reportage, des préfabriqués qui ont été fournis par le HCR. Là, c'est quand même un peu différent de la Macédoine, au sens où la pression est peut-être un peu plus forte, la tension est montée d'un cran.
Oui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que, effectivement, ce parcours se fait assez rapidement, mais les gens, quoi, quand même, sont souvent placés en position d'attente et ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Donc ils débarquent du train, ils font quelques kilomètres à pied entre les deux zones, et puis ensuite on les met de nouveau dans une zone, on leur dit pas, des bus vont venir, vous allez être emmenés à tel endroit, vous allez remplir des papiers, etc. On les fait juste attendre, et par 35 degrés minimum au soleil, je vous jure que c'est assez pénible. Et là aussi, heureusement, le HCR est là aussi pour expliquer aux gens que les choses vont venir,
que les bus vont les emmener
jusqu'à Préchevaux d'abord. D'accord. Parce que la première étape, c'est Préchevaux. C'est là que, dans un ancien camp de réfugiés aussi, c'est une ancienne usine de tabac transformée en camp, mais bon, qui ne peut pas accueillir 3000 personnes par jour. Oui, quand moi j'ai commencé ce reportage, on parlait de 3000 personnes par jour. Maintenant, on parle... je veux dire, à la fin du reportage, c'était déjà 6-7 000 personnes par jour. Ce sont des chiffres c'est un mouvement qui s'est emballé. Parce que autant les Serbes que les Macédoniens ne veulent pas que les gens restent. C'est pas ça le but. Le but, c'est de les faire aller le plus loin, là où ils veulent aller. Et avec ça, ils ont aussi l'assentiment du HCR qui estime que c'est aux gens de décider où ils veulent s'installer.
Étape suivante, Belgrade. Alors, soit par bus, soit par train.
Oui.
Et là, il reste quelques heures.
Fois plus, parce qu'il faut trouver des places dans les bus. Là, ça commençait à devenir un problème quand j'y suis allée, parce que effectivement, les compagnies d'autobus ont rajouté des bus, mais sans doute pas assez. Donc il y a les bus, il y a les trains, mais c'est devenu difficile de trouver une place. Mais c'est quand même assez contrôlé. Je veux dire, on peut pas vendre ces places de bus trois fois le prix ou etc. C'est quand même assez contrôlé, assez réglementé.
Et pour ceux qui ne veulent pas, au fond, passer par, disons, le trajet, disons, normal, en tout cas celui que vous décrivez, oui, il peut y avoir des problèmes. C'est notamment le cas, je crois, d'un jeune homme qui s'appelle Dia, qui veut faire le trajet en taxi.
Voilà, et qui se retrouve, en fait, racketté par le taxi en pleine nuit, quelque part. Ensuite, il marche encore quelques kilomètres, il prend un autre taxi, il arrive à Belgrade, il n'a pas de papier, il ne sait plus quoi faire. Et à tel point, c'est encore le manque d'informations, c'est toujours ce problème-là. À tel point que le jeune homme me dit, est-ce que je dois retourner après chez vous, c'est-à-dire refaire 200 kilomètres, ou est-ce que je dois, etc. Et c'est moi qui dois lui expliquer qu'en fait, il ne peut aller dans n'importe quel poste de police et qu'on lui fera ce papier. Voilà, c'est... Même si, je veux dire, bon, il y a ce manque d'informations, mais il y avait quand même beaucoup d'ONG qui venaient là voir les migrants. Par exemple, j'ai rencontré une jeune femme qui était là avec son traducteur qui était un mi-syrien, mi-serbe. C'est un de ses enfants né de ces unions qui avait, à l'époque de Tito, il y avait beaucoup de jeunes du Proche-Orient, parce que c'était un pays non aligné à l'époque. Donc il y avait beaucoup de jeunes du Proche-Orient qui venaient faire leurs études en ex-Yougoslavie, que ce soit à Sarajevo, à Belgrade ou ailleurs, et qui souvent ont fondé une famille. Et donc c'était un de ces jeunes-là qui...
Et oui, puis évidemment, en Serbie, on a quand même cette mémoire, ce souvenir de l'exil massif, et donc il y a une solidarité qui s'est organisée peut-être plus naturellement, notamment avec la transformation de ce centre culturel mixaliste.
Mixaliste, c'est l'antenne d'été de Mixer House, qui est peut-être, qui a un ancien hangar transformé en lieu culturel. C'est sans doute un des endroits les plus branchouilles de Belgrade, où se retrouve la jeunesse, à la fois pour des concerts, des rencontres, Internet. En général, leur programme est plutôt intéressant.
Et c'est devenu un centre d'aide
aux réfugiés, parce que ce sont les jeunes qui se sont organisés. Alors, le public qui vient aussi à Mixer House est très international. Je veux dire, il y a aussi beaucoup d'expats qui viennent, beaucoup de jeunes qui sont là en vacances. Et Belgrade est devenu un lieu très festif pour les jeunes Européens. Donc, on en rencontrait aussi qui se promenaient par là et qui venaient aider, apporter des choses, distribuer. Alors, le problème, c'est qu'ils n'étaient pas... Et ils mettaient aussi beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé quand j'ai fait ce voyage, c'est l'importance que pouvaient avoir Facebook, WhatsApp et Viber. Je veux dire, n'importe quelle nouveauté, n'importe quelle chose qui pouvait se passer était automatiquement su plus loin. Et c'est comme ça que moi j'explique que ces chiffres de 3000 ont explosé en 7000 en moins d'une semaine. Et toute cette utilisation des méthodes modernes aussi permet donc à ces voyageurs de ne pas avoir énormément d'argent sur eux. Parce que... ça les garantit aussi contre les vols de masse. Ils ont toujours quelqu'un qu'ils appellent, qui appelle quelqu'un d'autre, à qui on donne l'argent. Enfin, c'est des circuits. Ça passe pas par Western Union, hein, aujourd'hui, l'argent qui est envoyé. Parce que, bon, Western Union m'a expliqué qu'ils prennent 15%. Je sais pas si c'est vrai, mais moi, je m'en sers pas. Donc, et donc, en fait, c'est toujours le cousin du cousin du... qui, en fait, refile l'argent cash.
Alors, il y a cette solidarité, évidemment, de la société civile, mais il y a aussi des messages envoyés des responsables politiques. Il y a Aleksandar Vučić, qui est le Premier ministre serbe, qui est allé voir les réfugiés, alors pour leur délivrer clairement un message de solidarité, mais il y avait aussi peut-être derrière un message à l'adresse de l'Europe aussi.
Oui. Et alors, Vučić était le premier à aller, effectivement, dans le parc de Belgrade, la première fois, pour dire aux gens, on s'occupera de vous, nous sommes là. Et puis, je l'ai revu ensuite à Kanija. À Belgrade, il y était au tout début de la crise, hein, déjà au mois d'août, et moi je l'ai vu début septembre à Kanija, où il était venu voir comment ça se passait. C'était à quelques jours de la fermeture de la frontière de la Hongrie. Et effectivement, il est venu aussi dire que tout ça était très lourd pour le budget serbe et que... Il ne pouvait pas les accueillir tous.
Alors justement, parce que Kanija, c'est intéressant parce que c'est juste avant la Hongrie. Comment ça se passe aujourd'hui quand vous y étiez, vous parce qu'évidemment, c'est l'étape la plus redoutée par les réfugiés. Et peut-être que là aussi, il y a à nouveau du coup, des réseaux mafieux, des passeurs qui jouent un rôle.
Et là, tout du long, tout le monde ne parlait que de ça. La frontière de la Hongrie, les barbelés, la peur, etc. Et en fait, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi simple que de passer cette frontière hongroise, parce qu'à l'époque,
il n'y avait pas encore.
À l'époque, le mur de barbelés ne fermait pas la voie ferrée. Et donc, il y avait un endroit. En fait, les gens arrivaient donc dans cette aire de transit qui est à l'extérieur de Kanija pour que ça ne crée pas de nouveau de problèmes avec la population. Des bus les emmenaient jusqu'à Horgoš, là où se trouve la frontière. Et en fait, on leur montrait, il y avait des gens qui leur montraient où était la voie ferrée, et voilà, tout le monde passait la voie ferrée. Et donc le lendemain, je suis allée de l'autre côté, et j'ai vu les gens arriver sans aucun problème, là. Mais c'était avant le 15 septembre, avant la fermeture officielle de la frontière.
Réaction ici en plateau avec nos invités, Laura Hamida, évidemment le Calibien est très différent, on va en parler tout à l'heure avec vous, Emmanuel Blanchard, c'est vrai qu'il y a une chose qui frappe, c'est qu'au fond, quand les choses sont un peu organisées, un peu légalisées, tout de suite, les passeurs, les réseaux mafieux, disons, ne sont plus là, en tout cas, beaucoup moins.
Mais ce qui est très important dans le reportage d'Hélène aussi, c'était la rapidité du passage. C'est-à-dire, certains des gens dont elle avait recueilli le témoignage, racontaient qu'en un mois, même pas, parfois, ils étaient partis d'Alep et arrivés donc, à la frontière hongroise. Parfois, c'était même 3 semaines. Donc, c'est un phénomène très rapide, mais qui maintenant s'est beaucoup accéléré, d'où justement cette augmentation ces derniers temps des passages. Et là, ça va encore s'accélérer avant l'hiver, hein, parce que cette même route, même si la partie mer est toute petite, avec le froid à partir de la fin de l'automne et tout, c'est plus difficile. Et donc, il y a vraiment une accélération, parce que c'est une route maintenant qui est très rapide.
Oui, ces témoignages étaient très intéressants, puisqu'il faudrait rappeler au préalable que la Macédoine était un des points les plus dangereux sur le trajet il y a encore quelques mois simplement, puisque c'était un endroit où les exilés se faisaient enlever, se faisaient racketter. Et donc c'est un jeu ici qui s'est dénoué entre l'État et un certain nombre d'organisations criminelles qui opèrent en Macédoine. L'État a décidé de reprendre la main sur ce territoire. Et pour reprendre la main, il est obligé de passer par une légalisation des parcours migratoires. Et il me semble que ça nous renvoie ici à deux points extrêmement intéressant, c'est que pour que ces trajets puissent se nouer, il a fallu que la Grèce cesse d'appliquer les règles de Schengen, puisqu'il fallait passer en Macédoine. Et pour passer en Macédoine, il fallait que la Grèce cesse de prendre les empreintes, cesse d'empêcher les traversées. Donc on voit bien ici qu'on est à un niveau de résolution de ces questions qui est forcément un niveau européen et qui remet fondamentalement en cause des politiques telles qu'elles se sont construites. Dernier point, en quelques secondes, Marc Semo a raison ici de rappeler que ces trajectoires migratoires depuis la Syrie sont aujourd'hui plus courtes du point de vue temporel. Vous avez dit 3 semaines, 1 mois. Mais c'est énorme, 3 semaines, 1 mois, pour aller de Turquie, puisque d'Alep en Turquie, on passe toujours très facilement, jusqu'en Europe. Alors qu'il y a des solutions qui existent, qui s'appellent des visas humanitaires, qui s'appellent des visas asile, et ce sont des solutions qui ne sont toujours pas appliquées, alors qu'elles sont dans le droit d'un certain nombre de pays européens, en particulier la France. Donc même si il y a eu une humanisation d'une certaine façon, une légalisation d'une partie des trajectoires, ces personnes sont toujours obligées de s'en remettre à des voyages et à des organisations qui leur coûtent extrêmement cher, beaucoup plus cher qu'un billet d'avion, qui... sur certaines parties du trajet, peuvent porter atteinte à leur intégrité physique et qui toujours portent atteinte à leurs droits. Puisqu'il faut rappeler que ce sont des réfugiés et que donc ces réfugiés ont un droit inaliénable à traverser les frontières sans document de voyage.
Mmh. Laurent Amida.
Je pense que la réalité libyenne est beaucoup plus dure. C'est toujours difficile de hiérarchiser. Mais il y a une hiérarchie quand même dans les routes migratoires, c'est-à-dire que avant que cette route des Balkans se démocratise, devienne populaire chez les gens qui souhaitaient quitter leur pays, il y avait beaucoup plus de gens, j'allais dire, il y a une hiérarchie dans les routes, c'est-à-dire que si vous avez de l'argent, vous avez le choix de choisir votre route. Et il y avait déjà ça en Libye, c'est-à-dire que vous ne preniez pas la même route si vous étiez riche ou si vous étiez pauvre. Et aujourd'hui, la Libye, ça va rester, les conditions sont terribles, on en parlera tout à l'heure, ça va rester la route de ceux qui n'ont pas le choix.
Voilà. On va en parler dans un instant. Merci beaucoup, Hélène Despine-Popovic, d'être passée dans notre studio. Je rappelle votre série de reportages Balkans Express. Un grand merci. On va poursuivre donc cette journée France Culture met en récit le monde moderne, opération aujourd'hui consacrée au drame des migrants. Et on va s'intéresser aujourd'hui, nous, depuis tout à l'heure, on se penche évidemment sur cette question précise des passeurs, passeurs réseau, mafia. Quelle réponse pour l'Europe ?
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Des gens m'ont proposé sur Facebook de voyager grâce à eux. Ils m'ont même dit que j'aurais une suite à bord. Mais le premier jour, ils m'ont mis un pistolet sur la tête et m'ont dit « Donne ton argent ou on te tue ».
Les Libyens vont vous compter. Et puis quand ils vous comptent, ils vont vous frapper. Pour eux, nous sommes des bêtes, tu vois, on n'a même pas le cerveau. Toute personne qui a la peau noire, là, franchement, on ne te considère même pas.
Je veux partir. J'ai été à Tripoli et j'ai donné de l'argent 3 fois aux passeurs. Je n'ai pas pu partir, mais je continue d'essayer. C'est pour ça que je suis aujourd'hui en prison.
Les passeurs qui profitent de la guerre sont partout. Ils sont libyens ou tchadiens. Allô, j'en ai 50. Ok, tu peux me les envoyer. Au moment de la traversée, ta vie ne signifie rien pour eux. Tu es juste une marchandise.
Juste une marchandise. On s'intéresse ce matin dans Culture Monde à ces passeurs extraits de quelques reportages de France Télévisions. Alors évidemment, Marc Semo, l'actualité est foisonnante. C'est évidemment d'abord les drames terribles qui se multiplient ces derniers mois. C'est aussi une Europe qui d'abord était restée un peu immobile avant finalement d'agir sous l'impulsion, comme souvent, d'une chancelière allemande, une nouvelle fois leader au sein de cette Union européenne. Et puis c'est aussi le niveau supranational, c'est-à-dire c'est aussi les Nations Unies, j'en parlais tout à l'heure, qui là encore semble bloqué. Il y a une nouvelle fois cette mécanique onusienne qui s'enraye. Cette fois, c'est à propos justement de cette résolution qui permettrait normalement à l'Europe, et on va en parler dans un instant, d'arraisonner des navires en haute mer. Pour les Européens, c'est vrai que c'est un point important, c'est peut-être essentiel, puisque leur législation nationale ne leur permet pas justement, notamment l'Allemagne, de le faire. Selon le projet de résolution, les Européens seraient autorisés à inspecter en haute mer, je cite, « au-delà des côtes de la Libye, des navires qu'ils soupçonneraient d'être utilisés par les passeurs pour acheminer de migrants depuis la Libye ». Alors, reste à voir évidemment avec quels résultats on pourrait attendre de tout ça. Mais voilà, il y avait d'abord le niveau des États-nations, le niveau de l'Europe, et là, au niveau de l'ONU, on voit que les choses sont compliquées également, Marc Semo.
Oui, mais...
je pense qu'en bonne partie, la plupart des experts sont d'accord là-dessus, c'est de la posture. La guerre totale contre les trafiquants que prônent Matteo Renzi et ses homologues européens, en partie ce sont des mots, parce que même cette mission méditerranée, donc le sigle EUNAVFOR MED, bon, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle arraisonne des bateaux. Donc s'il y a des migrants dedans, ils les prennent à bord, ils les accueillent, ce qu'on fait jusqu'ici. S'il n'y a rien à bord, ils ne peuvent rien faire. Donc on est dans quelque chose qui est plus vis-à-vis des opinions publiques. Et dans ce genre d'opération, ce qu'on arrête en général, dans le meilleur des cas, ce sont des passeurs. Des passeurs qui sont le plus souvent eux-mêmes des migrants ou des réfugiés qui payent ainsi le passage. Les passeurs, c'est un peu comme les dealers pour la drogue, hein, soulignait un criminologue italien, Andrea De Nicola, qui a fait avec un journaliste, Gianpaolo Musumeci, un excellent livre publié chez Liana Levi, qui s'appelle « Trafiquant d'hommes », hein, et qui d'ailleurs évalue, l'ONU évalue l'ensemble de ce business du trafic d'êtres humains à 10 milliards d'euros par an. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes. Et dans leur enquête, qui est tout à fait passionnante, alors elle date un peu, mais les choses y étaient déjà, ce que disait tout à l'heure d'ailleurs Laurent Amila, il y a effectivement différents types de passages. Et il y a les passages de luxe. Il y avait un trafiquant turc, un certain Kutchuk, c'était son surnom, le cours, avait inventé le système des yachts. Il volait des yachts, et ils embarquaient un certain nombre de migrants dedans, beaucoup, pour amortir le voyage, et ils arrivaient en Italie sans problème, parce qu'au début, les gardes-côtes italiens pensaient que c'était des yachts de plaisance. Et donc, ils faisaient la route Turquie-Italie sans aucun problème. Ça a duré 4 ans. Au bout de 4 ans, quand même, ils se sont aperçus que ces yachts qui étaient un peu bas sur l'eau, qui avaient l'air surchargés, c'était peut-être pas des yachts normaux. Donc, il y a ces multiples filières. Et ce sont des réseaux qui sont souvent très, très décentralisés. C'est-à-dire, en Libye, je pense qu'on en reviendra, on y reviendra avec Laurent Amida. Il y a des vrais patrons de réseaux, des très grands trafiquants. On connaît leur nom. Il y a eu des écoutes de la police italienne qui racontent leur business, d'ailleurs, au quotidien. En Turquie, c'est beaucoup plus décentralisé. Et c'est effectivement, comme le disait Hélène, c'est Facebook, c'est Internet. C'est un monde extrêmement mouvant, extrêmement souple. Et c'est aussi ça qui rend la lutte contre les passages très difficile. Et ce que racontait ce matin, justement, dans la matinale sur France Culture, Hakan Günday, qui a fait ce livre magnifique encore, c'est qu'aujourd'hui en Turquie, c'est devenu massif. C'est-à-dire, dans toutes les boutiques, à peu près, on trouve des gilets de sauvetage à acheter. Qu'aujourd'hui, tout le monde s'y est mis parce qu'il y a effectivement un énorme business, il y a un énorme appel d'air, il y a énormément de migrants qui ont compris que c'est le moment ou jamais de venir et que surtout, il faut le faire avant l'hiver. Et que donc, voilà, tout le monde se met à vendre des bateaux en caoutchouc, des gilets de sauvetage et tout. Donc, c'est aussi ça qui rend le combat très différent. Et il y a vraiment beaucoup de rhétorique, parce que c'est d'une certaine façon comme la guerre à la drogue, hein, et le petit dealer, oui, c'est lui-même un usager qui se drogue, et là, exactement de la même manière, le passeur, celui qu'on arrête le plus souvent, hein, à chaque fois on dit on a arrêté 100 passeurs, c'est extraordinaire, c'est lui-même aussi un réfugié qui tente le passage. Alors évidemment, il y a des organisations dessus, mais voilà, c'est eux qui sont en première ligne.
Emmanuel Blanchard, de la rhétorique, de la posture. Peut-être un mot sur l'échec de cette résolution onusienne, Emmanuel Blanchard.
L'échec de cette résolution onusienne, effectivement, il se place dans un jeu diplomatique. Et on ne sait pas d'ailleurs comment ça va se jouer dans les prochains mois. La question qui se pose, elle est avant tout en Libye. Pour que cette résolution onusienne passe, encore faudrait-il qu'il y ait des autorités, du point de vue libyen, qui soient les interlocuteurs légitimes et principaux. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est cette résolution onusienne...
Sachant qu'on a toujours évidemment ce problème, pardon...
Des deux gouvernements, de Tobrouk et de Tripoli. Mais ce qui est intéressant ici, pour revenir à la question du vocabulaire, c'est que l'idée qui est défendue, et vendue même, c'est qu'on aurait affaire à de la traite des êtres humains, qu'on aurait affaire à des trafiquants. Ce qui doit permettre, du point de vue juridique, notamment si on place du côté de la traite des êtres humains, associée à l'esclavage, permettre des interventions en haute mer qui, normalement, ne sont pas autorisées par le droit international. Or, comme l'a dit Marc Semou, qui sont ces personnes, à la fois... Les exilés, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des personnes qui, même si elles subissent des mauvais traitements, elles sont obligées de s'en remettre à des organisations privées, parfois criminelles, pour assurer un passage qu'elles achètent, mais qu'elles ne peuvent pas obtenir par d'autres moyens. Elles pourraient l'obtenir par d'autres moyens, des moyens légaux, si l'Union européenne n'avait pas décidé que les exilés n'avaient qu'une place, c'est une place le plus loin possible des frontières de l'Union européenne. D'où aujourd'hui une articulation double. L'idée, il faut combattre les trafiquants, il faut combattre la traite, l'opération Méditerranée, UNEVOR dont vient de parler Marc Semo, et la découverte par l'Union européenne qu'il y a des millions de personnes dans des camps en Jordanie, en Turquie, au Liban, alors que l'Union européenne n'abondait pas les budgets du HCR et de l'agence onusienne pour la sécurité alimentaire. Elle ne payait pas ce qu'elle devait. Aujourd'hui, elle se rend compte que si elle ne met pas la main à la poche, ces personnes se mettent en mouvement. Et ce qu'on appelle l'appel d'air, expression horrible, puisque quand même, on est sur la question de rhétorique, des questions de vocabulaire, et elle a été utilisée à plusieurs reprises. Qu'est-ce que c'est un appel d'air? C'est en fait, à partir du moment où une voix devient un peu sécurisée, un peu humanisée, un peu respectueuse des droits, bah, les personnes choisissent d'utiliser cette voix. Et donc, c'est pas un incendie, c'est justement le retour au légalisme, le retour à l'humanité qui fait que ces personnes peuvent se défaire des trajectoires horribles, mortifères qu'elles devaient emprunter auparavant.
Laurent Hamida, vous avez reçu il y a quelques mois dans le cadre de ce documentaire Libye, un bateau pour l'Europe. C'est un pays que vous connaissez, vous y êtes allé régulièrement, notamment pendant la Révolution. Alors, je rappelle pour les auditeurs ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui en Libye un Tripoli contrôlé par les islamistes de Fajr Libya, et puis on a, qui est l'une des deux forces qui revendique le contrôle du pays, et puis on a donc toujours deux parlements, Fajr Libya à Tripoli, et puis l'autre connu par la communauté internationale à Tobrouk. Quand vous aviez fait votre documentaire, qu'est-ce que vous aviez compris de la structuration des réseaux de passeurs libyens? Au fond, qu'est-ce qu'on a derrière? Est-ce qu'on arrive un peu à définir, à établir qui on a derrière ce jeu?
Je pense qu'il faut pas tenir compte, en fin de compte, des deux gouvernements en Libye. Je pense que les sommes d'argent sont tellement importantes que ça transcende les clivages, si vous voulez, entre gouvernements reconnus Tobrouk et tripolitaine. La raison pour laquelle la plupart des départs se font dans la zone tripolitaine, c'est uniquement géographique. C'est des raisons géographiques. C'est-à-dire que vous avez une plage
entre des grandes plages sur
des grandes plages, vous n'avez pas de courant marin, vous êtes à proximité de l'île de Lampedusa. Donc c'est ça qu'il faut voir. Ensuite, il faut voir un peu cette côte. Donc on va parler essentiellement de deux endroits. Un port qui est à 100 km à l'ouest de Tripoli.
C'est Zouara ?
Non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Et celui-là, donc de Zouara, qui est à 200 environ, 250 km. Donc c'est deux ports de pêche à la base, avec des chalutiers d'une vingtaine de mètres. Donc c'est les bateaux qu'on voit souvent remplis de migrants arraisonnés en mer par les marines occidentales. Mais il faut voir un peu ces côtes-là, ces villes-là, comme un peu une île. Parce qu'en Libye, il y a une mer au nord, mais il y a une mer au sud aussi. C'est-à-dire que les gens qui arrivent là, les migrants qui arrivent là, ont déjà traversé le Sahara, avec des conséquences terribles, souvent, pour eux. C'est-à-dire que les morts ne sont pas comptabilisés. Moi, j'avais été il y a deux ans à la frontière du Niger, en Libye, et je vous garantis que si vous passez dans ces pistes sahariennes, les corps momifiés sont là. C'est-à-dire que on ne parle aujourd'hui que de ce qui se passe en Méditerranée, mais on ne voit pas ce qui se passe en Sahara. Et ça, les migrants, quand vous les rencontrez là-bas, vous racontent bien ça. Ensuite, il faut savoir, c'est très important, qu'il n'y a pas, à ma connaissance, un réseau qui contrôle tout le passage d'Érythrée en Europe, ou en Italie, pour rester à Lampedusa, ou alors d'Afrique de l'Ouest en Europe. La réalité, c'est que, évidemment, la personne qui va vous démarcher en Érythrée ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal...
va vous dire qu'elle a les contacts pour ensuite.
Voilà. Mais en réalité, voilà. La réalité, c'est que vous payez le passage. Vous pouvez payer le passage jusqu'en Libye, jusqu'au nord de la Libye. Ça peut être en Tripolitaine, mais de toute façon, en Tripolitaine, vous allez être amené vers ces deux endroits d'où vous allez partir. Et de là, vous traversez, si vous voulez, des groupes variés ethniques, religieuse. Alors vous passez par les Touaregs, vous passez par les Toubous dans le sud libyen, ensuite vous passez par une milice arabe, et ensuite vous passez par une milice de Zintane qui appartient au gouvernement reconnu de Tobrouk, et ensuite vous arrivez à Zouara qui est tenue par une milice affiliée à Farah al-Adija, donc le gouvernement de Tripoli. Donc tous ces gens-là...
Ça transcende les clivages ethniques.
Exactement. Il ne faut pas voir ça comme un gros parrain qui est assis en Calabre et qui contrôle tout ça.
Une question avant de passer la parole à Marc Semo. Je vous la passe tout de suite, Marc Semo, mais ces bateaux-là dont vous parlez à Zouara, à qui ils appartiennent? Par qui ils sont achetés? qui les utilise, comment, enfin.
Alors il faut savoir une chose sur Zouara. Alors je ne vais pas incriminer une ethnie plus qu'une autre, ok. Donc Zouara, tout le monde se connaît. Ce sont des Amazighs, une tribu, donc qui était un peu brimée sous Kadhafi parce qu'il était pour l'arabisation, etc. Donc il n'y avait pas de développement économique, etc. Il y avait la pêche. Aujourd'hui, le poisson coûte 3 fois plus cher qu'il ne coûtait il y a 5 ans.
Parce qu'il n'y a plus de pêche.
Parce qu'il n'y a plus de pêche. Pourquoi il n'y a plus de pêche? Parce que les pêcheurs, ils préfèrent vendre un bateau de 18 mètres, hein, un bateau de pêche. On parle de 80, à l'époque de Kadhafi, ça coûtait 80 000 dinars. Aujourd'hui, ça coûte 70 000 euros. C'est les bateaux bleus qu'on voit remplis de migrants. Donc, si vous voulez, ils vendent les bateaux. Les autorités, il n'y en a plus. Vous avez, même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas, parce que là, on parle de passeurs qui engrangent par voyage. C'est des chiffres que moi, j'ai recoupés avec le dire des migrants, combien ils payent, combien tu vends un bateau, combien ton bateau de pêche y vend. J'ai parlé à des passeurs qui n'ont pas accepté d'être filmés, mais qui ont accepté de me... Mmh. Ils se cachent même pas, ils sont connus. Hein. Mmh. Vous allez voir un migrant, il va vous expliquer. Soit il y a un middleman, un intermédiaire de l'ethnie du migrant, qui prend 600 euros par bateau qu'il organise. Il dit, moi j'en ai 60, 70. Et lui, il va parler au passeur. Mais le passeur est connu, si vous voulez. Le problème qu'il soit connu, c'est vous allez intervenir comment? C'est-à-dire que vous allez... ce sont des gens qui ont... Alors, je vais finir avec les sommes en jeu. Par voyage, c'est 30 000 euros environ, on estime, de bénéfices pour 300 migrants. Vous vous rendez compte? Et on en parle. Ces 2-3 passeurs qui sont connus à Zouara, ils organisent entre 20 passages par jour, par semaine, pardon. Vous rendez compte, les sommes en jeu. C'est, vous, avec ça, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Absolument. Maximum. Non, mais les sommes en jeu sont immenses. Alors, vous parliez très bien justement de la situation de la Libye et de l'arrivée jusqu'à la Libye. Ensuite, pour le passage de la mer, apparemment, il y a quand même des réseaux structurés. Parce que la police italienne, qui est très habituée aux écoutes dans le cadre de la lutte anti-mafia, avait mis sur écoute un certain nombre de réseaux. Il y avait notamment des écoutes absolument fascinantes qui ont été rendues publiques dans la presse italienne d'un des grands boss en Libye. Du trafic, hein, qui est un Éthiopien, Hermias Germay, qui vit entre la Libye et l'Allemagne, et qui racontait quasiment le quotidien de son business. D'ailleurs, il n'était pas content quand il y avait des drames en mer, parce qu'il dit que ça faisait de la mauvaise publicité et que ensuite les gens hésitent. Ensuite, il y a la situation de la Turquie qui est un peu différente, dans la mesure où là, le passage est beaucoup plus rapide, il n'y a pas le désert, il n'y a pas, comme pour tous les migrants qui viennent de l'Afrique subsaharienne, ça, hein, ils arrivent c'est directement des camps, hein, ils viennent de Syrie en Turquie, et le passage de mer est beaucoup plus petit. Hein, les îles, les premières îles grecques en face des côtes turques, c'est parfois une heure de mer, parfois deux, parfois même moins. Dans l'absolu, il y en a même où on peut arriver à la nage. Et donc, là aussi, ça crée une structure très différente, c'est-à-dire beaucoup plus décentralisée.
Et
effectivement, les sommes en jeu sont énormes. Et plus les moyens de passage, plus c'est difficile de passer, plus les sommes montent. Et c'est parfaitement organisé. C'est-à-dire, d'abord, vous payez une minime partie, ce que racontait Hélène, les gens ont très peu d'argent sur eux. Hein, c'est de la famille qui envoie ensuite à l'arrivée par SMS, je suis arrivé, on paye. Ensuite, il y a des assurances passage. Hein, alors, moi, une fois, j'avais fait une enquête en Turquie là-dessus. Ah, bien sûr. Voilà, où vous avez le droit à 3 passages. Hein, et ensuite, si au bout de 3 passages c'est raté, bon, ben, tant pis. Et c'est là que vous devenez vous-même passeur ou vous conduisez le Zodiac pour payer le passage. Mais ce sont quand même des sommes en jeu qui sont aujourd'hui absolument énormes.
Emmanuel Blanchard.
Tant sur la question des sommes que sur la question des trajets, on peut avoir une approche qui soit une approche criminologique ou une approche ethnographique où on va s'intéresser aux individus, à la fois ceux qui essaient de se faufiler et ceux qui vont leur fournir les services qui vont leur permettre de passer. Mais on peut aussi avoir une approche qui soit plus géopolitique ou politique. Et Laurent Hamida a rappelé à raison qu'il y avait une pluralité de routes et que par exemple en Libye, les personnes qui arrivaient étaient déjà des rescapés. C'était des rescapés de la route saharienne qui mène en Libye, comme on a des rescapés de la route saharienne qui mène vers Tamanrasset, Rasset, par exemple, et ensuite plus au nord. Comme il y a des rescapés d'un endroit encore plus horrible et qui a été mis en lumière dans un documentaire récent qui a reçu le prix Albert Londres, les rescapés du Sinaï. Et donc, ici, on voit que ces zones sont toutes des zones où le monopole étatique, le monopole de la violence légitime, notamment, n'est pas assuré. Et donc, effectivement, où les personnes qui doivent passer par ces endroits vont être soumises non seulement à un économie de passage, mais aussi aux rançons, aux rançons, aux raquettes, aux enlèvements. Et là, ça nous oblige à réfléchir à qu'est-ce qui fait que ces personnes sont obligées de passer par ces lieux que chacun et elle-même en première connaissent comme des lieux particulièrement dangereux. Et ça nous renvoie à la prohibition au sens général ici, où effectivement, face à une interdiction, de fait, puisque aujourd'hui, si vous êtes subsaharien, si vous êtes syrien même, vous n'obtiendrez jamais les visas qui vous permettraient d'accéder à l'Europe par des voies légales, en tout cas pour la majorité de ces personnes. Et donc si on veut penser véritablement des solutions qui feraient que cette économie illégale pèse moins, et elle pèse très fortement, notamment dans les relations qui leur permettent de déstabiliser quasiment certains États, pour qu'elles pèsent moins, il faut penser les choses à l'instar de ce qui a été fait sur la drogue. C'est-à-dire penser des formes de fin de la guerre aux migrants, comme l'ONU dit aujourd'hui, il faut mettre fin à la guerre à la drogue en Amérique latine, puisque c'est par la pensée de voies légales que ces personnes vont pouvoir enfin échapper à ces économies criminelles.
Une petite question, Emmanuel Blanchard, et je vous passe la parole, Laurent Hamida. Dans ce paysage, disons, des trajets migratoires, Laurent Hamida nous disait, finalement, c'est une succession de réseaux. Est-ce qu'il y a quand même des réseaux qui, finalement, gèrent toute la filière depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée ?
D'après ce que j'en sais, c'est-à-dire peu de choses, j'ai pas fait des enquêtes précises, mais les témoignages que j'ai lus, ce que j'ai entendu, il semblerait, comme l'a bien dit Laurent Hamida...
Parce que vous faisiez un parallèle avec la drogue, c'est l'une des spécificités justement de ce trafic-là.
Sans doute que du point de vue du passage des exilés, les exilés s'organisent au maximum pour faire, d'une certaine façon, des passages qui leur permettent de rester dans l'interconnaissance le plus longtemps possible, de transporter le moins d'argent possible et de pouvoir travailler au fur et à mesure de leur trajet, ce qui fait qu'on a des odyssées qui peuvent durer des mois, voire des années. Quand la Libye était encore l'alliée de l'Union européenne et gérait des camps d'étrangers pour l'Union européenne, il y avait des milliers d'habitants d'Afrique de l'Ouest qui prenaient cette route et aller en Libye travailler soit pour payer leur passage, soit simplement parce qu'ils y trouvaient une relative sécurité qui faisait qu'ils ne voulaient plus continuer leur route migratoire. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette sécurité et donc ils sont tentés soit de traverser la Méditerranée dans des conditions qui sont encore plus difficiles, soit d'être victimes de réseaux qui vont leur menacer de les repousser vers le sud ou les obliger à se remettre dans leurs mains pour partir au nord. Et donc, l'idée qu'il y aurait un Deus ex machina qui gérerait l'ensemble des réseaux est une idée fausse. Il y a des économies criminelles qui peuvent générer des millions, voire des milliards à l'échelle mondiale, mais ça se fait par des trajectoires qui sont des trajectoires courtes, qui sont organisées très souvent au niveau local.
Non, je voudrais juste nuancer là-dessus, justement sur le passage turc, notamment. Quand vous faites le passage de luxe, entre guillemets, hein, vous avez la garantie non seulement de prendre des voies qui sont beaucoup moins fréquentées et d'arriver quasiment directement, sans aucun problème.
Oui, mais il faut déjà être arrivé en Turquie. Et c'est pas le même réseau qui les a fait arriver en Turquie.
Et parfois, y compris depuis l'Afghanistan et tout, vous avez ces réseaux. Mais c'est vraiment une question de prix à payer. Hein, parce que vous avez aussi, justement, ces passages de luxe et qui, en plus, sont des passages qui évitent les points les plus connus, par exemple. Calais, il y a des moyens d'arriver en Angleterre autrement que par Calais. On n'en parle jamais dans la presse, c'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus rapide. Idem, une question que je voulais poser à Laurent Hamida, on ne parle pas de la Crète. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de possibilités d'aller directement depuis la Cyrénaïque vers la Crète, ce qui évite l'engorgement de Lampedusa?
Alors, Laurent Hamida. Je ne suis pas allé en Cyrénaïque, mais en étant marin, je sais que la côte cyrénaïque est très compliquée en termes de courant et en termes de navigation. C'est uniquement... moi, ce qu'on m'a fait comprendre, c'est pourquoi le trafic, ça paraît bête, hein, mais se concentrait donc sur cette région-là. Déjà, il y a la distance et il y a surtout... parce qu'en plus, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à Lampedusa, vous avez une plateforme pétrolière en chemin. Et en général, ce sont les gens qui travaillent sur la plateforme pétrolière qui appellent les secours en voyant l'état des bateaux, parce que les bateaux, il faut les voir. Hein. Donc, moi, ce que je voudrais dire par rapport à l'existence d'un réseau, par exemple, qui part de... Ça, c'est ce que va dire le gars en Érythrée. Hein. Il va dire, donne-moi 7000 dollars, c'est à peu près ce que raconte 5000 et 8000. Moi, je t'emmène dans un port libyen. C'est pas possible. Pourquoi ? Ma déduction, c'est qu'en 3 semaines, la situation libyenne est tellement volatile que vous pouvez avoir une milice qui a fait allégeance à tel groupe, à tel commandant, qui va. Les routes sont pas compliquées, il y en a pas mille. Hein. C'est beaucoup moins vaste que la mer. Hein. C'est des routes, des pistes avec des puits. Donc si vous contrôlez, si vous voulez cette piste là, cette partie de cette piste, vous contrôlez le trafic. Donc si
ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas impossible que de contrôler ces routes là, ces trajets là.
C'est pas possible si vous voulez d'organiser des retraits. Un passage save jusqu'en, même si vous avez 10 000 dollars, jusqu'à Zouara et en Méditerranée. Parce que vous allez devoir payer. La réalité de la zone que vous allez traverser en Libye va changer. C'est-à-dire que le type ne peut pas prévoir, si vous voulez, ce qui va se passer dans un mois entre Mourzouk et
Khartoum. Mais ça, c'est assez spécifique à la Libye aussi.
Ben oui, mais là, je parlais bien de la Libye. Attention, hein, je parle de la Libye. Et c'est terrible. Et il y a une autre chose à prendre en compte en Libye, c'est que depuis que la guerre s'est exacerbée en Libye, tous les travailleurs donc qui venaient d'Afrique de l'Ouest ou d'autres régions d'Afrique qui travaillaient donc en Libye se sont retrouvés piégés en Libye, et ils se joignent en fin de compte au flux, c'est un mot que j'aime pas, mais au flux donc migrants qui vont en Libye pour aller en Europe. Et ces gens-là, ils sont dans une situation terrible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de banque en Libye. Ils n'ont pas d'argent, donc ils travaillent. Parce qu'il faut voir, hein, on parle des Syriens ou des Érythréens en général qui ont plus de moyens que les migrants subsahariens qui, eux, sont obligés de financer en fin de compte. Parce que même si ils appellent ça le coxeur, leur a vendu au village le passage jusqu'en Europe, ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, pour arriver à Tamanrasset, le voyage s'arrête là. Donc il faut renégocier avec le commandant Touareg. Et le commandant Touareg, il va dire ça coûte 600 euros. Et là, donc, il va travailler. Et travailler, ça veut dire quand il n'y a plus de banque, ça veut dire avec l'argent dans la poche, ça veut dire avec... Donc vous imaginez tout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui payent 2-3 fois déjà, 4 fois, 5 fois, et ils ne passent pas. Ou alors le bateau coule. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont erré 3 jours en mer et qui sont revenus en Libye. Donc vous imaginez. Donc c'est un an et demi de travail dans des conditions terribles. Après, je voudrais parler, si je peux, aussi de l'intervention. On va intervenir, on va taper sur les passeurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous pensez, quand vous arrêtez un bateau de migrants, rempli de 300 migrants, il va y avoir les passeurs dans le bateau. En général, le type...
qui tient la barre.
Le type qui tient la barre, avec un Ekal Touraya, en général, un téléphone satellite. Hein,
pour s'orienter. Pour rappeler,
voilà, où il appelle les secours, hein, etc. Après, il balance le téléphone. C'est un type, on lui a promis soit une réduction sur le passage, soit un passage gratuit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le seul truc qui embêterait un peu les migrants, c'est de couler les bateaux. Les passeurs. C'est de couler les bateaux une fois qu'on a ramassé.
Mais il en est question, justement.
Oui, pour l'instant, ils ne le font pas.
Pour l'instant, ils ne le font pas, mais oui, dans la phase 2,
les bateaux sont saisis, par ailleurs.
Pas systématiquement.
Pas systématiquement, mais en revanche, dans la phase 2, pardon, justement, de Eunafor, il est question, justement, de saisir les bateaux, voire même de les détruire.
Donc, ça veut dire qu'on continue la logique policière qui est la seule réponse qui a été apportée par l'Union européenne, une logique policière qui a échoué jusqu'à aujourd'hui. Et vu qu'elle a échoué, on essaie d'apporter une réponse policière de plus haut niveau, avec plus de violence encore, et plus de risques encore, sans doute, pour les migrants. Parce que couler les bateaux, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire qu'effectivement, peut-être qu'un jour, il sera possible d'aller les couler dans les ports libyens. Mais ça veut dire que dans ce cas-là.
Qu'est-ce que ça change? On va détruire la flotte de pêche libyenne, mais moi,
j'y crois absolument pas. Et c'est une solution que je récuse, et c'est une solution qui, pour moi, n'existe pas. Mais si on nous la vend, réfléchissons à les conséquences. Qu'aurait cette solution? Simplement, il y aurait une volonté de chercher une nouvelle route migratoire. Il y aurait une économie de passage qui s'organiserait autrement. Comme, d'une certaine façon, on oublie que ces questions-là sont des questions extrêmement anciennes. Les subsahariens, jusqu'au milieu des années 2000, passaient avant tout par le Maroc, par Ceuta et Melilla, ou par la route des Canaries. Ces routes n'ont pas été complètement fermées, loin de là. Il y a toujours des personnes qui passent. Mais le passage a été rendu plus difficile, et donc il y a eu une réorientation des routes migratoires vers des routes qui sont le plus souvent beaucoup plus dangereuses. Tant qu'il n'y aura pas une réponse politique à cette question de personnes qui ont besoin ou qui ont un droit, je le rappelle, à aller d'un poids à un autre, la réponse policière, elle fera porter ses effets avant tout sur ceux qui sont dans ces situations de vulnérabilité et pas sur ceux qui organisent une économie illégale face à une prohibition.
Un tout dernier mot, les uns les autres, on arrive vraiment au terme de cette émission. 20 secondes, Laurent Hamida, vous vouliez dire encore un mot?
Non, je voulais parler de ce que je voulais dire, signifier une intervention militaire dans les ports libyens. Je vois pas ce que ça veut dire. Si vous voulez, les passeurs, eux, ça les fait rigoler. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ils intègrent bien, nous, notre météo médiatique, c'est-à-dire que les passeurs s'adaptent. C'est-à-dire que s'ils savent que on va intervenir, s'ils savent qu'on va, mais pour eux ça les fait rire parce qu'ils disent intervenir, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire envahir, ce qui reste envahir la côte libyenne. Et ils rigolent, ils disent voilà.
En fait, ce dont rêve l'Union européenne, c'est d'un nouveau Kadhafi qui serait en mesure de réguler, comme il le faisait dans son marchandage avec l'Union européenne, ses flux, c'est-à-dire en organisant la rétention d'un certain nombre de personnes.
Merci beaucoup à vous, Laurent Hamida, Emmanuel Blanchard et Marc Semeau, notre partenaire de Libération, comme chaque vendredi. On va poursuivre évidemment cette opération spéciale. France Culture met en récit le monde moderne et on consacre évidemment cette opération aux migrants.